Le débat du jour.
François Bernard.
Bonsoir, merci de nous accueillir à l'écoute du débat sur RFI. La Turquie dira ce dimanche par référendum si elle accepte d'accorder des pouvoirs étendus à son président. L'opposition estime que la réforme constitutionnelle qui est en jeu en donnerait trop à M. Erdogan. Depuis le coup d'État manqué de l'été dernier et la purge qui s'en est suivie, le président semble disposer de pouvoirs très importants. Alors ce référendum, si le oui l'emporte, va-t-il instaurer un simple régime présidentiel ou sera-t-il le moyen pour le président Erdogan de cautionner, de justifier sa tendance autoritaire? On va en parler avec nos deux invités. Je vais vous les présenter tout de suite. Didier Billon est chercheur en relations internationales, directeur adjoint de l'IRIS et spécialiste de la Turquie. Bonsoir à vous Didier Billon.
Bonsoir.
Et puis Ali Kazantzigil est politologue, directeur de la revue géopolitique Anatolie et co-auteur d'un livre qui a pour titre La Turquie d'une révolution à l'autre, c'est aux éditions Fayard. Vous êtes en ligne. Bonsoir à vous, Ali Kazantzigil.
Bonsoir.
Alors, le président Erdogan semble déjà avoir le pays à sa main. Il veut plus de pouvoir. Pourquoi faire, Didier Billon ?
Oui, c'est d'ailleurs une très vieille idée de Erdogan. Il en parle depuis plusieurs années, cette volonté de présidentialiser le régime. Et là, le référendum nécessite que les citoyens turcs se prononcent clairement pour oui ou pour non. Je pense qu'en réalité, cela permettrait à Erdogan d'institutionnaliser, de codifier, de graver dans le marbre l'étendue des pouvoirs qu'il a acquis au fur et à mesure des années. Ces pouvoirs sont très nombreux. Dans la pratique, de facto, on peut considérer que d'ores et déjà, il a une pratique présidentialiste du pouvoir, sauf que les 18 articles qui sont soumis à référendum le week-end, enfin dimanche prochain, vont accentuer et surtout codifier encore une fois cette pratique. Donc pour lui, c'est un moyen de s'inscrire dans la durée. Ça, c'est très important. Il y a une deuxième obsession de Erdogan, c'est de rester le plus longtemps possible au pouvoir. Il a une date en tête, c'est 2023. Pourquoi ? Parce que ce sera le centenaire de la République de Turquie et qu'il veut absolument apparaître comme celui qui est aussi, voire plus important que Mustafa Kemal Atatürk dans l'histoire de la Turquie républicaine. Donc ce référendum, il a cette fonction. Un, codifier le pouvoir, les pouvoirs très étendus qu'il s'est constitué au fur et à mesure des années. Deuxièmement, s'inscrire dans la durée et se donner tous les moyens qui vont limiter ô combien l'opposition ou les contre-pouvoirs à s'opposer à lui.
Alors, la purge depuis l'été 2016 est sévère. Elle prouve que le président Erdogan dispose déjà de pouvoirs très étendus, que vous dites qu'il veut graver dans le marbre d'une certaine manière. Je m'adresse à vous, Ali Kazantzigil.
Oui.
Vous pensez la même chose ? Pourquoi, d'après vous, en faut-il plus à M. Erdogan ?
Ben tout à fait. Écoutez, il y a plusieurs raisons. D'abord, il y a sa personnalité. Il est saisi d'une sorte d'hubris. Il veut être, comme a dit Didier Billon, le second Mustafa Kemal Atatürk et de le deuxième grand-père de la nation turque. Il y a cet aspect personnel. Mais il y a aussi dans ce référendum, d'ailleurs, je n'utilise plus ce terme de référendum, il s'agit d'un plébiscite. Parce qu'il n'y a pas eu du tout de possibilité de campagne contre le projet de constitution. C'est Erdogan qui contrôle tout, il y a des milices dans les quartiers qui pressent les gens, et etc. Il y a un climat terrible qui règne en Turquie.
Vous voulez dire que les opposants ne peuvent pas faire campagne pour le non à ce référendum en Turquie ?
Mais non, ils n'ont pas d'espace. Chaque opposant, des gens de gauche, sont immédiatement accusés d'être gulenistes et sont embastillés. Enfin, il y a une ambiance épouvantable. Mmh. Et donc, c'est vraiment un plébiscite. C'est quelque chose qui est un dictateur qui impose son pouvoir. Et pourquoi aussi ? C'est parce que depuis son élection à la présidence, comme a dit Didier, sous l'actuelle constitution, il s'agit d'un système parlementaire. Or, depuis plusieurs années, il se comporte comme un président exécutif ayant tous les pouvoirs. Mmh. Donc, il a besoin de légaliser tout cela au cas où les choses iraient mal et qu'il ne serait plus au pouvoir. À ce moment-là, il serait poursuivi pour avoir violé la constitution.
Mmh. Mmh. Et comment la frange la plus éclairée de la population observe-t-elle alors cette dérive autoritaire, Didier Billon ?
Alors, ce qui est très très intéressant, c'est que, comme l'expliquait Ali Kazantzigil, tous les moyens étatiques une très grande partie des moyens médiatiques, puisqu'on sait que malheureusement la presse est largement bâillonnée désormais, sont utilisés par le pouvoir. C'est assez exceptionnel. On a des vues, des photos, des reportages où partout dans les villes, il y a des portraits immenses de Erdogan lui-même, d'où l'aspect plébiscitaire, et puis en faveur du oui. Il n'y a pas équité de temps de parole dans cette campagne électorale. Nous, on est bien placé en France dans ces jours de campagne électorale présidentielle.
On est à l'égalité même.
Absolument, maintenant à l'égalité. Tout cela est absolument inconnu en Turquie. Et malgré ce matraquage en faveur du oui, l'opposition, malgré toutes les difficultés qu'elle a pour s'exprimer, arrive à faire passer un certain nombre d'idées et surtout, d'après les sondages, d'après les études d'opinion, dont je sais qu'il faut bien sûr les prendre avec précaution, mais toutes indiquent que le résultat n'est pas donné à l'avance. Non. C'est-à-dire que nous sommes, selon les instituts, à plus ou moins 49,5 en faveur du oui ou du non pour certains autres instituts, ce qui signifie en d'autres termes que malgré le cours liberticide extrêmement préoccupant que connaît la Turquie depuis plusieurs années, mais surtout depuis la tentative de coup d'État du 15 juillet dernier, avec des milliers d'arrestations, des dizaines de milliers de personnes licenciées, plus de 150 journalistes embastillés, etc., eh bien, il y a une sorte de résistance passive d'une grande partie de la population qui ne s'en laisse pas compter, même si elle ne l'exprime pas publiquement. Et je peux comprendre pourquoi, car s'exprimer pour le non aujourd'hui en Turquie nécessite un véritable courage politique. Et malgré ça, on voit qu'il y a une résistance sourde, une résistance passive qui va peut-être amener un effet de surprise dimanche soir.
Ce qui semble prouver, Ali Kassan-Sigil, que la purge massive que connaît le pays, notamment dans les médias et dans la justice, autorise les contre-pouvoirs à fonctionner normalement, non ?
Bah, c'est-à-dire que les contre-pouvoirs institutionnels ne fonctionnent pas, sont réprimés. Toutes les chaînes de télévision sont contrôlées, les chaînes d'État bien sûr par le gouvernement, mais les chaînes privées appartiennent maintenant aux amis de M. Erdogan. Les journaux sont sous pression, il y a des centaines de journalistes sont en prison, mais la population turque, même dans les couches moins éduqués de la population, ont tout de même une expérience des élections démocratiques. Parce que la Turquie vote, il y a eu bien sûr des coups d'État qui ont interrompu ces processus, mais depuis 1950, même depuis 1946, la Turquie vote dans des élections pluralistes. Donc il y a une tradition et finalement des individus, il y a aussi un processus d'individualisation en Turquie. Le citoyen de la rue individuel a appris à penser par lui-même, pour lui-même, ce qui se passe. C'est comme ça que j'explique cette résistance qui est extraordinaire, parce que il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas de soutien, il y a au contraire une pression terrible contre les personnes qui veulent voter à l'encontre d'Erdogan.
Alors, vous avez mentionné le nom de Fethullah Gülen tout à l'heure. Comment évaluer son rôle dans l'opposition à Erdogan ? Gülen qui semble véritablement la bête noire du président turc.
Oui, il est devenu bête noire, parce que Gülen a créé donc une espèce de néo-confrérie très puissante qui est axée sur l'éducation. Il a des écoles, non seulement il a créé des écoles, des lycées, etc., non seulement en Turquie, mais aussi en environ 130 ou 140 pays. C'est un réseau extraordinaire, très puissant. C'est bien sûr d'origine sunnite, religieuse, mais il a toujours déclaré une position, de libéralisme vis-à-vis de la politique. Il a toujours dit qu'il faut séparer la démocratie et la religion. Et il a soutenu Erdogan dans les années 2002, 2003 jusqu'à 2010 en gros, parce qu'il a vu qu'il faisait des réformes, il s'approchait de l'Europe, etc. Et ensuite, à partir de 2010, il y a eu des différends entre eux, et ça a tourné au vinaigre lorsque des réseaux gulanistes ont dévoilé des dossiers de corruption dans lesquels la famille d'Erdogan était impliquée. Alors ça a été la guerre absolue, Erdogan a réussi finalement à convaincre une bonne partie de la société turque que c'est Gülen qui avait fait le coup d'État de 2015. Certainement, des gulenistes ont participé à ce coup d'État, parce que Erdogan a aidé aussi Gülen à introduire dire, dans les appareils de l'État turc, à l'époque où ils étaient alliés, des gulenistes, dans l'armée, dans la justice, etc. Et ensuite, ils se sont retournés contre Gulen, contre Erdogan, mais aussi des kémalistes, certainement, des officiers kémalistes ont participé aussi au coup d'État. C'était très mal organisé. Il y a aussi beaucoup de doutes sur les origines et l'organisation de ce coup d'État. C'est pas clair du tout.
Problème complexe, manifestement.
On ne sait pas très bien quel a été le rôle des autorités dans cette affaire.
Monsieur Erdogan, vous voulez intervenir peut-être, un, sur les contre-pouvoirs, deux, sur Fethullah Gulen.
Non, sur Gulen, Ali a dit l'essentiel. Mais ce qui est très important, c'est qu'aujourd'hui, en Turquie, le pouvoir, Monsieur Erdogan, a désormais trois ennemis publics numéro un. Ça vous donne quand même l'ambiance, ça fait beaucoup. Bon, Gulen, on en a parlé. Le deuxième, c'est le Parti des Travailleurs du Kurdistan, cette organisation qualifiée de terroriste et qui mène une guerre depuis 1984. Et troisièmement, Daesh. Et alors, dans certaines déclarations de M. Erdogan, lors de cette campagne référendaire, donc depuis quelques semaines, c'est désormais l'Union Européenne qui devient aussi un ennemi.
Ça fait quatre.
Alors je ne dis pas qu'il qualifie l'Union Européenne d'ennemi public numéro un, mais vous comprenez qu'il y a une sorte d'hystérisation du débat politique. Mmh. Et il a même été jusqu'à dire au début de la campagne que ceux qui prônaient un vote négatif au référendum était des complices des terroristes.
Et pourtant, M. Erdogan reste très populaire en Turquie. Comment vous expliquez-vous cette popularité, Didier Billon ?
Eh bien, parce que M. Erdogan, tout d'abord, a un charisme personnel. Alors, on peut regretter les choses, mais c'est ainsi. C'est-à-dire que quand il fait un meeting, par exemple, c'est assez extraordinaire. Il a des dons de tribun populaire. On connaît ça sous d'autres cieux. Oui. C'est quelqu'un qui, par ailleurs, peut s'appuyer jusqu'au début des années 2010-2011 sur un bilan à la fois politique, positif, puisqu'il a au début contribué à élargir le champ des libertés individuelles et collectives en Turquie, qui a pu aussi surfer sur d'excellents et impressionnants résultats économiques. Donc tout cela a contribué à créer une sorte d'aura autour de cet homme qui est par ailleurs un animal politique, qui a un sens politique tout à fait aigu. Et puis dans la dernière période, alors que nous sommes dans une situation de chaos régional et que malheureusement la Turquie aussi a été touchée par de multiples attentats, Monsieur Erdogan joue la stratégie de la tension, se présentant comme le seul à être capable de sauver la Turquie dans un environnement régional infiniment troublé. Donc l'ensemble de ces facteurs permettent de comprendre qu'il bénéficie encore d'une aura réelle, d'une véritable base sociale électorale, mais dont je pense que nous sommes à un tournant et que cette base sociale électorale va s'effriter peu à peu, ce n'est pas pour demain matin ni pour dans les trois mois. N'oublions pas, enfin et dernière chose, qu'une partie de ceux et celles qui jusqu'alors ont voté régulièrement pour lui l'ont fait entre autres pour les bons résultats économiques. Or que la situation économique aujourd'hui en Turquie n'est pas bonne, qu'il y a des turbulences. Probablement cette économie va rebondir, je ne sais pas quand, mais aujourd'hui concrètement, le taux de chômage monte, l'inflation est revenue à deux chiffres, donc tout cela n'est pas très 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 positif, et donc une partie des classes moyennes qui étaient un des principaux supports sont non pas en train de le quitter, mais de s'effriter.
Alors je me tourne vers vous, Ali Kassanzigil. Sur quels critères, sur quels thèmes Monsieur Erdogan fonde-t-il l'adhésion à son projet politique? Comment fait-il pour convaincre du bien fondé de son action?
Écoutez, comme a dit Didier Billon, il y a eu des succès économiques et sociaux dans les élections que Monsieur Erdogan a gagnées en 2007, 2011, etc. Ces succès sur le plan économique et social ont joué le rôle principal. C'était pas le fait qu'il était islamiste, musulman, etc. Ça jouait aussi, mais c'était surtout ça. Et maintenant, avec les tensions que connaît le pays, la croissance qui baisse, les investissements étrangers qui s'étiolent, 70%, 75% des investissements étrangers directs, c'est-à-dire qui créent des emplois dans le pays, viennent de l'Union européenne. Et il traite l'Union européenne de nazis. Alors vous pensez bien que ça va pas arranger la situation économique. Donc probablement dans la période qui vient, la base électorale d'Erdogan va s'affaiblir sur ce plan économique et social. Alors mais jusqu'à présent, pourquoi il a le soutien de la majorité de la population turque? Parce que il a amélioré grandement les conditions de la de vie des couches, disons, à revenus modestes ou pauvres de la Turquie. Le taux de la pauvreté en Turquie a baissé de 30% à 18%. En France, il y a 13% de pauvreté, ça veut dire que pour un pays comme la Turquie, 18% de pauvreté, ce n'est pas mal. Mmh. Ensuite, il a amélioré l'état de providence turque. Pour donner un exemple, dans les hôpitaux publics, pour les familles modestes, les enfants jusqu'à 18 ans sont traités gratuitement. Il y a des choses comme ça, si vous voulez, qui font que la population soutient. Et encore aussi un phénomène, un facteur historique qui tient à la naissance de la République turque. La République turque a été créée par des élites occidentalisées, laïcisées, etc., qui ont amélioré énormément les conditions des classes urbaines qui étaient comme eux, mais dans ce processus, pendant très longtemps, l'Anatolie, les zones rurales, les gens modestes ont été laissés de côté. Et Erdogan vient de ces milieux-là.
D'accord.
Et cette dualité turque n'a pas encore disparu. Ça s'améliore, l'Anatolie maintenant, dont il y a l'industrie en Anatolie et tout, mais ça, il joue là-dessus aussi. Moi je suis de vous, je viens du peuple, je suis contre les élites. Il joue là-dessus aussi.
Donc un homme politique
c'est un
populaire.
Populiste achevé.
D'accord. Populaire, voilà. Populiste. Est-ce qu'il peut perdre ce référendum néanmoins?
Écoutez, je crains que non, mais ça va être très serré, et donc probablement, il va s'en servir, mais il ne va pas pouvoir satisfaire son hubris, en quelque sorte. Mmh. Ça va être peut-être, comme disait Didier, 49-51, ouais. Quelque chose comme ça.
Didier Billon, il peut perdre le référendum?
Oui, je crois qu'il le peut.
Ouais.
Vraiment.
Et qu'est-ce qui se passerait alors s'il était désavoué?
Ah, je pense qu'il serait totalement illusoire de considérer que si il perdait le référendum, il pourrait calmer le jeu. Je pense que c'est exactement le contraire. Oui. C'est-à-dire que dans l'hypothèse où le non l'emporte, je pense qu'il y aurait peut-être une radicalisation de M. Erdogan. Alors on peut se dire, mais peut-il encore aller plus loin? Oui,
aura-t-il les moyens et les outils, constitutionnellement?
Constitutionnellement, oui. Par exemple, je pense à un exemple. Nous avons un parti d'opposition parlementaire, donc un parti légal, c'est le Parti démocratique des peuples, parti kurdiste, qui a une soixantaine de députés, 10 d'entre eux, 13 d'entre eux sont aujourd'hui en prison. On pourrait très bien considérer qu'il va purement et simplement interdire ce parti. Par exemple, on peut considérer que la presse, qui est déjà bien sous pression et bien muselée, pourrait encore subir d'autres attaques. Donc, on peut considérer, malheureusement, c'est une hypothèse de travail, je ne souhaite évidemment pas que cela puisse se réaliser, mais qu'il puisse y avoir une sorte de surcroît de radicalisation dans le cours liberticide qui est développé par Monsieur Erdogan. Nous n'en sommes pas là. Attendons avec impatience, en tout cas pour moi, dimanche soir, mais je crois véritablement que les jeux ne sont pas faits et qu'aujourd'hui, il serait bien présomptueux de considérer que le oui va l'emporter.
Il nous reste une petite minute. Qu'est-ce qui motive cette quête obsessionnelle d'un pouvoir fort, comme le nommait un article récent du Monde diplomatique? Alors, je vous pose la question, Ali Kassantigil, mais vous avez une minute, pas plus.
Oui. Qu'est-ce qui motive?
Ouais. Cette quête obsessionnelle d'un pouvoir fort, comme le disait l'article que je mentionnais.
Mais écoutez, cette quête, cette envie d'un pouvoir fort, c'est en quelque sorte, encore une fois, je pense, c'est à la fois, disons, l'effet d'un pouvoir fort, le fait d'avoir soumis à son pouvoir toutes les institutions en Turquie, qui peu à peu, il se rêve comme un personnage historique indispensable pour la Turquie, pour la population.
Didier Billon, en 10 secondes, pour conclure.
En 10 secondes.
Il n'y a pas vraiment de raison rationnelle.
Allez, abandonnons la psychologie et la psychanalyse, parce qu'on est au terme de cette émission. Merci à tous les deux. Didier Billon, chercheur en relations internationales, directeur adjoint de l'IRIS et spécialiste de la Turquie, et puis Ali Kassantigil, politologue. Je rappelle le titre de votre dernier livre, La Turquie d'une révolution à l'autre, c'est aux éditions Fayard. Merci également à Florence Ponce, à Alexandre Serre qui ont préparé cette émission, à Fabrice Viollet qui la réalise en ce moment même. Vous retrouvez lundi Anne Souhaitement et ses invités pour un nouveau débat. Vous restez à l'écoute de Radio France Internationale. Dans quelques secondes, un nouveau journal sur RFI.